Monsieur Barrette, bonjour.
Bonjour.
Ça fait l'unanimité de ce que je comprends là, de ce projet de loi qui est déposé.
Bien, je pense que c'était désiré par beaucoup de gens au Québec, le fait d'avoir un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale. Puis vous l'avez dit, ça va être une vision au sein de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. Il y a beaucoup de victimes qui ont témoigné au cours des dernières années pour dire, écoutez, moi, le système de justice, quand je suis passé au travers, ça a été un parcours du combattant. Je me suis pas senti accompagné, je me suis pas senti soutenu. J'ai pas senti que j'avais nécessairement des droits à travers le système de justice. Puis, dans les cas des infractions qui sont visées, exemple agression sexuelle ou violence conjugale, c'est des crimes très intimes et ça peut être très difficile pour la personne de revivre ça. Alors, partant de là, il y a eu le rapport Rebâtir la confiance au mois de décembre dernier qui recommandait la mise en place d'un tribunal. Et j'y donne suite parce qu'on a entendu les victimes et on veut que les victimes n'hésitent plus jamais à dénoncer un crime qui a été commis à leur endroit. On veut les mettre à l'aise dans le système de justice. Il faut que l'approche des tribunaux soit centrée sur la personne victime, sur son bien-être et sur son accompagnement pour qu'elle puisse livrer un témoignage.
Parmi les choses qui m'ont, je dirais pas inquiété, mais qui m'a amené à m'interroger, c'est que on parle de formation des juges. Est-ce que je dois comprendre que nos juges sont pas sensibles à ce que vit une victime, je parle actuellement, à ce que vit une victime de violence conjugale ou encore qui a été victime d'agression sexuelle?
Non, faut pas tirer cette conclusion-là. Par contre, tous les groupes d'experts qui ont été entendus par le groupe de travail qui avait été formé par ma prédécesseure Sonia Lebel, le comité transpartisan avec les quatre partis politiques, les victimes qui sont venues témoigner, ont indiqué que ça prenait davantage de formation pour l'ensemble des acteurs du système de justice. Ça signifie autant les policiers, les enquêteurs, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales, les intervenants sociaux, mais incluant les membres de la magistrature, incluant les juges. Alors, c'est pour ça qu'on répond à cette demande-là. Justement, on confie au Conseil de la magistrature le fait de développer des formations pour les juges relativement à la réalité des victimes de violences sexuelles et conjugales. Parce que vous savez, lorsque vous êtes une victime d'agression sexuelle, c'est possible que, dans le cadre de votre témoignage, vous ayez certains traumatismes et c'est important de bien comprendre la réalité d'une victime d'agression sexuelle. Alors, moi, je pense que plus les gens auront des informations, de la formation sur certains sujets, mieux ça sera. Et je pense que au fédéral, ils l'ont fait, notamment pour les juges de la Cour supérieure, de la Cour d'appel. Donc, c'est normal qu'à la Cour du Québec, où près plus de 95% des dossiers d'agression sexuelle sont entendus, qu'il y ait une formation.
Le moment le plus traumatisant pour la victime, c'est évidemment son témoignage. Et le plus traumatisant lors de son témoignage, c'est le contre-interrogatoire, c'est-à-dire l'interrogatoire de l'avocat de l'accusé. Est-ce qu'on va garder les enquêtes préliminaires? Parce que là, ça peut être un témoignage supplémentaire à ce qu'on retrouve au procès, parce que une personne peut être obligée de raconter son histoire une fois au policier, puis deux fois au juge. Est-ce qu'on va faire en sorte de réduire un peu le nombre de fois qu'on aura à raconter son histoire?
Bon. Sur la question de l'enquête préliminaire, ça relève du fédéral, c'est prévu au Code criminel. Il y a eu des modifications au cours des dernières années où, pour une agression sexuelle, où est-ce que la peine est passible de moins de 10 ans, je crois qu'il n'y a plus d'enquête préliminaire, mais si une agression sexuelle armée, il y a toujours une enquête préliminaire. Nous, du côté du Québec, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos champs de compétences à ce niveau-là? Bon, on peut avoir la poursuite verticale que j'ai annoncée là au mois de mai dernier. La poursuite verticale, ça veut dire ça va être le même procureur aux poursuites criminelles et pénales qui va accompagner la victime tout au long des différentes étapes du processus pour éviter qu'elle ait à raconter à différents intervenants son histoire. Le dossier de la personne va être confié au même procureur tout au long des procédures. Alors ça, autant en violence conjugale que sexuelle, c'est important parce qu'on veut éviter que la victime, à toutes les fois, ait besoin de raconter à nouveau. Même chose, on va avoir un coordonnateur judiciaire qui va pouvoir faire les liens entre les victimes et les différents intervenants du système de justice.
Nos tribunaux.
Et on va avoir un outil également avec les CAVAC, qui font de l'excellent travail pour préparer la personne victime à son témoignage. Donc, on a déjà étendu le programme pour les enfants agressé sexuellement, notamment à la grandeur du Québec, une trentaine d'heures, pour venir montrer la salle de cours, pour outiller la personne lorsqu'elle témoigne. Alors, même chose au niveau des personnes en situation de vulnérabilité, elles pourront bénéficier de ce programme-là.
Bon, faut dire que ça a beaucoup évolué. Je regarde maintenant au niveau des enquêteurs, parce que c'est là que ça commence, les enquêteurs à la Sûreté du Québec ou à certains corps de police municipaux, pensons Montréal-Québec, Laval, où on a développé des champs d'expertise en matière de violence conjugale et d'agression sexuelle. Ce sont des enquêteurs, des enquêtrices spécialisés qui savent comment aborder la victime, qui savent comment faire pour ne pas la traumatiser davantage. Maintenant, on sait que nos tribunaux sont surchargés. Est-ce qu'on a suffisamment de procureurs de la Couronne pour se permettre de garder un seul procureur de la Couronne qui va suivre son dossier du début à la fin, c'est-à-dire du début où le policier amène la plainte jusqu'à la conclusion du dossier qui peut être en Cour suprême?
Oui, tout à fait. Dans le fond, j'ai annoncé 44 millions de dollars sur 5 ans d'investissement justement pour déployer des équipes spécialisées au directeur des poursuites criminelles et pénales. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en matière de violence sexuelle et conjugale, le procureur va également, dès le départ, indiquer à la personne victime qui porte plainte quelles sont les différentes étapes. Il va prendre le temps de lui expliquer toutes les étapes du processus judiciaire. Et une intervenante du CAVAC également va être impliquée à ce niveau-là pour tout le long du processus judiciaire pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et il faut le dire aussi, la mise en place du tribunal spécialisé n'aura pas pour effet nécessairement de faire en sorte qu'il n'y aura plus d'acquittement. Ça, les règles de preuve demeurent la même chose. L'objectif du tribunal spécialisé est de faire en sorte qu'au bout du processus, même s'il y a un acquittement, la personne qui est accusée, que la personne victime soit satisfaite et se soit sentie accompagnée et soutenue à travers ce processus judiciaire-là qui, parfois, peut être traumatisant.
Est-ce qu'on va devoir aménager des palais de justice pour faire en sorte que la victime ne soit jamais en contact avec son agresseur? Ça peut aller même jusqu'à l'entrée dans le palais de justice.
Bien, effectivement, c'est une des recommandations du rapport Rebâtir la confiance de mieux aménager nos palais de justice. Et je vais vous donner un exemple. Quand je suis allé à Montréal, au palais de justice de Montréal, il y a un très bon programme en matière de violence conjugale pour soutenir les victimes qui s'appelle Côté Cour. Sauf que le local de ce programme-là était en face de la salle d'attente des accusés. Donc, pour la personne victime qui devait, qu'elle obtenait des services, du soutien, devait passer devant la salle d'attente des accusés. Ça n'a pas de bon sens, M. Cloutier. Mmh. Alors, ce qu'on a fait, on a fait changer ça, on a fait mettre les salles d'attente sur un étage différent, les salles de cours sur un étage différent, justement pour faire en sorte d'éviter à la personne victime de croiser la personne qui est accusée de l'infraction criminelle contre elle. Il faut faciliter la vie des victimes à l'intérieur de nos institutions, à l'intérieur du palais de justice. Les victimes ont des droits, puis je pense que c'est important de amener un changement de culture dans le système de justice, de moderniser les façons de faire, puis ça va permettre justement de faire en sorte que, comme société, on envoie un message clair que ce genre de comportement-là, les agressions sexuelles, la violence conjugale, c'est tout à fait inacceptable.
Bon, on est capable de faire comparaître maintenant un accusé directement du fin fond de sa prison, de sa cellule. Il y a des caméras qui sont aménagées. Je dois comprendre que dorénavant, une victime n'aura pas à se présenter en salle d'audience, mais pourra témoigner dans une salle spécialement aménagée visio-conférence ou autrement, là.
Ben, en fait, nous, comme État, on va mettre à la disponibilité des personnes victimes et des tribunaux, dans le fond, des salles de visioconférence ou des paravents ou pour le télétémoignage. Par contre, il revient toujours au juge d'accorder ou non cette possibilité-là de témoigner en visioconférence. C'est prévu au code criminel. Le juge accorde ou non la requête. Dans les cas des enfants, ça se fait souvent. Pour les adultes, c'est à la discrétion du juge en raison des règles du code criminel.
OK. Maintenant, ça va pas s'implanter du jour au lendemain dans tous les palais de justice du Québec. Et pour probablement que chez nous, la Beauce, on sera dans les derniers. C'est des projets pilotes pour commencer.
Oui, il y aura des projets pilotes. Actuellement, on est en train de regarder à quel endroit est-ce qu'on va implanter le tout. Ce qu'on veut faire, c'est avoir différentes grosseurs de palais de justice, de districts, de clientèle également. Alors, on est en train d'évaluer tout ça. Et je peux pas vous dire que la Beauce sera une des dernières. C'est pas du tout notre intention, dans le fond. Moi, mon intention, c'est de couvrir l'ensemble du territoire québécois le plus rapidement possible, incluant la Beauce.
Eh bien, on va suivre ça. Quand est-ce qu'on peut penser voir poindre, premièrement, les premières formations? Qui va donner de la formation à des juges? Vous savez que quand sa seigneurie monte sur le banc, c'est tout le monde debout, mais quand sa seigneurie va rentrer en classe, c'est toute la gang assise. Là. Qui va arriver et qui va exiger des juges qui soient tranquilles puis qui écoutent attentivement les leçons qu'on va leur donner?
Bon, alors, le projet de loi, de la façon dont je l'ai construit pour la formation des juges, il y a un principe dans notre constitution relativement à la séparation des pouvoirs et relativement au fait que les juges sont indépendants. Alors, moi, comme ministre de la Justice, je ne peux pas imposer la formation et le fait aux juges de suivre la formation comme telle, ceux qui sont en fonction. Mais ce que nous avons fait dans le projet de loi, c'est que nous avons confié au Conseil de la magistrature le fait de développer une formation. Ils devront rendre rapport à l'Assemblée nationale pour dire combien de juges ont suivi la formation et quelle est la nature de la formation. Ça, c'est pour ceux qui sont en fonction. Pour ceux qui ne sont pas nommés et qui souhaitent devenir juges, ils devront s'engager contractuellement à suivre cette formation-là avant d'être nommés. Alors, pour tous ceux qui sont à nommer, ils vont devoir la suivre. Et pour les juges à la retraite, donc on appelle ça les juges suppléants, à chaque année, je nomme des juges qui sont à la retraite et qui vont continuer à siéger à titre de juge suppléant. Ceux-ci, s'ils veulent siéger à titre de juge suppléant, auront dû suivre la formation. C'est la façon de faire en sorte de préserver l'indépendance judiciaire relativement à la formation des juges, mais tout en s'assurant qu'il y a une formation développée et que le conseil d'administration s'assure que les juges suivent cette formation-là.
On commence ça quand, là?
Ben, dans les meilleurs délais, moi, j'ai déposé le projet de loi hier. Le projet de loi doit être adopté, donc j'ai besoin de la collaboration des oppositions. À partir du moment où le projet de loi va être adopté, ça va se faire rapidement.
On va suivre ça de très près. Ça m'intéresse beaucoup, ce dossier-là, moi, qui a été avocat de la défense. Et je peux vous dire que j'ai vu une belle évolution, autant au niveau des victimes d'agressions sexuelles que ceux qui sont victimes de violences conjugales. Ça s'est beaucoup amélioré. Il y a une époque où on se payait à la traite en défense, mais là, c'est plus le cas actuellement. Et ça va l'être de moins en moins, de ce que j'en comprends.
Effectivement, vous avez raison.
Bonne journée à vous, M. le ministre. Merci de nous avoir parlé.
Merci. Bonne journée. Plaisir. Bonne journée à vous. Au revoir.
On s'arrête.